Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Croza.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1 Écrire, communiquer et collaborer sur le web donné à l'UTC par Stéphane Croza. Alors pour rappel, en WE1, on aborde des théories relatives aux technologies du numérique et du web, numérique comme la raison computationnelle par exemple. On apprend aussi à se servir d'outils du web en installant un serveur web pour mettre en ligne son propre site par exemple. Et puis on se penche aussi sur des outils méthodologiques et puis des aspects culturels du web. Tous les supports de cours se retrouvent sur librecours.com. Alors tous les étudiants et les étudiantes de WE1 ont réalisé ce semestre un projet qui consiste à écrire et publier un dossier thématique sur le web qui aborde donc une problématique technologique du web et qui contient notamment un article collectif, des fiches de lecture et puis une interview. Alors si vous écoutiez la radiographie tout à l'heure en début d'après-midi, vous avez entendu la voix de Stéphane Croza qui m'aide maintenant à la technique en ce moment et puis vous avez entendu les voix des premiers étudiants et des étudiantes de ce semestre qui se sont lancés dans la présentation à la radio de leurs interventions basées sur des projets qui étaient sur les thèmes de la basse technicisation et de la convivialité du web, ainsi que sur l'éducation, alors traditionnelle, populaire et avec le numérique. Alors maintenant, je suis avec le troisième et dernier groupe d'étudiants et d'étudiantes pour aujourd'hui. Je suis avec Elias Saka. Bonjour Elias. Bonjour Elias. Tu es aussi avec, à tes côtés, Iliane Mouissé-Ferrara.
Bonjour.
Bonjour Iliane. Je suis à côté de Cléo Lesage.
Bonjour.
Bonjour Cléo. Et bonjour aussi à Souhaïl El-Bamrani. Bonjour Souhaïl.
Bonjour.
Et bonjour Mehdi Maillet.
Bonjour.
Alors, tous les cinq, vous avez choisi de réaliser votre dossier thématique sur le thème de s'informer sur les médias sociaux. Et donc aujourd'hui, vous êtes en studio pour nous présenter un exposé collectif sur ce sujet. Et pendant ce temps, eh bien, les autres étudiants du TD vont travailler aussi. Les autres étudiants du TD sont censés vous poser des questions sur Mattermost, des questions que je vous relaierai au micro. Alors c'est parti, on commence avec Elias. Elias, tu vas nous parler de l'émergence de pratiques pour s'informer sur les médias sociaux. Tu es prêt ? C'est parti.
Bonjour à tous. Comme mon enseignante Audrey Guélou vous l'a précisé, mon intervention aura pour but de sensibiliser et d'informer des dangers des réseaux sociaux, de mettre en valeur l'importance de l'information aujourd'hui au sein de notre société. Alors, depuis la nuit des temps, l'homme cherche à s'informer sur ce qui l'entoure dans le but de se protéger, d'améliorer ses conditions de vie et de se cultiver, bien sûr. Tout commence il y a 40 000 ans avec l'apparition de l'art rupestre, utilisé par l'homme préhistorique qui, à travers la peinture, cherche inévitablement à transmettre des messages. Comme on peut très bien citer la célèbre grotte de Lascaux, dans laquelle on observe inévitablement une intention de transmission de messages. Alors l'histoire a connu une succession d'innovations qui ont permis à l'information de pouvoir se développer au sein des sociétés, comme par exemple l'écriture, l'imprimerie avec Gutenberg, le télégraphe, le téléphone, le cinéma, etc. etc. Et toutes ces informations ont permis l'expansion de cette... de l'information au sein de notre civilisation. Malheureusement, ce n'est pas forcément toujours une chose positive, parce qu'on observe que très rapidement, elle devient source de conflits et de manipulations. On peut très bien se référer à la Seconde Guerre mondiale, période très sensible, qui via des propagandes manipulait des nations entières, comme par exemple le régime de Vichy. Au début du XXIe siècle, les premiers réseaux sociaux font leur apparition et prennent une part très importante dans notre société. Alors au départ, elles avaient pour but de révolutionner notre manière de communiquer via le mail. Et peu à peu, ils se développent et deviennent plus interactifs et laissent place à de nouvelles visions de leur utilisation. Ils sont arrivés au point où ils représentent aujourd'hui un danger pour nous, les utilisateurs qui subissons constamment une exploitation de nos données personnelles. Alors maintenant, on va écouter l'interview d'un des développeurs de Facebook, Sean Parker, qui se confie 10 ans après. C'est une vidéo, enfin un extrait d'une interview présentée par la BBC le 8 novembre 2017.
You know, if the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, you know, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like a, I mean, it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. And I think that we, you know, the inventors, creators, you know, and it's me, it's Mark, it's the, you know, Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway.
Conscient des enjeux, les plus grands tels que Facebook, Twitter et Snapchat et encore d'autres, adoptent des manières qu'on peut qualifier malheureusement de machiavéliques pour récupérer nos informations. Comme nous avons pu l'entendre à l'instant de la bouche de Sean Parker, l'un des développeurs de Facebook, pionnier des réseaux sociaux, leur intention première n'était pas de révolutionner nos méthodes de communication, pardon, mais plutôt de collecter un maximum de nos données personnelles. Nous pouvons voir, au premier abord, penser que cela reste sans grandes conséquences, mais cela montre que nous ne sommes pas réellement libres et que nous faisons que ce que nous faisons n'est pas réellement notre volonté. Nous pouvons observer que nous sommes manipulés depuis le début, que comme base, ils ont utilisé une faille présente dans le cerveau humain, qui est la validation sociale. Et il va créer une boucle qu'il appelle Social Validation Feedback Loop. En fait, elle est basée sur un besoin présent chez tous les individus, qui est cette validation sociale. À partir de cela, ils ont pu lancer la rédaction de leur algorithme. Et cette validation sociale, pardon, permet de sécréter dans notre cerveau une hormone qui s'appelle la dopamine, aussi connue sous le nom de hormone du bonheur. Notre cerveau en raffole de cette hormone, et ça, Facebook l'a très bien compris, et avant tout le monde. Leur algorithme permet alors de mettre en lien les personnes qui pourraient avoir de bonnes affinités, qui pourraient avoir les mêmes centres d'intérêt, comme par exemple le sport, le cinéma, des sujets basiques. Et une fois pris, entre guillemets, au piège, entouré de personnes qui ont les mêmes façons de penser que nous, ben, nous sommes maintenant enfermés dans une bulle informationnelle qui nous conforte un peu dans nos idées et nos points de vue. Nous sommes confrontés qu'à des gens qui pensent comme nous, et donc aucun moyen de se sentir ni blessé, ni lassé, puisque nous avons des gens qui nous soutiennent. Et alors là, la mission est gagnée pour Facebook, qui réussira à consommer un maximum de notre temps. Mais pourquoi cela représente un danger ? Ben, tout simplement, si par exemple quelqu'un est platiste, il va se retrouver seulement avec des gens qui sont platistes, et va rester qu'avec des gens qui le convaincront que cela est vrai. Mais comme tout algorithme, il peut posséder des failles, mais ça aussi, ils y ont pensé. Ils ont ajouté une fonction bloquée qui peut rendre cette bulle impénétrable. L'utilisation de nos données personnelles n'a pas seulement pour conséquence de nous hébéter, mais également peut servir pour nous manipuler. En effet, on peut très bien citer le cas des élections américaines en 2017, le scandale Cambridge Analytica, et ce sont près de 87 millions de données d'utilisateurs qui ont été manipulées dans le but d'influencer le choix de vote des Américains. C'est pourquoi nous devons rester très vigilants lorsque nous utilisons les réseaux sociaux, prendre du recul sur chacune des informations qui circulent et vérifier les sources et qu'elles sont de sources sûres. J'en ai fini de ma présentation. Je laisse maintenant la parole à mon camarade Diane qui poursuivra sur le sujet en commençant par parler des acteurs des médias, poursuivra ensuite en parlant des changements sémiotiques des réseaux sociaux ainsi que des conflits d'intérêts que cela génère.
Merci Ilias, merci beaucoup pour ta présentation. Alors écoute, en effet, on va passer la main à Iliane, mais avant cela, tu as de la chance, tu as deux questions qui t'attendent sur ma thermos. Mais remets ton casque, on y va alors. Ilias nous a parlé en effet de certains dangers, de certains risques qui existent, qui sont liés à l'exploitation des données personnelles sur certains réseaux sociaux. Et tu vois, Anna se demande s'il y a des réseaux sociaux pour lesquels cette généralisation ne s'applique pas. Généralisation de l'exploitation des données, etc. Est-ce que ces phénomènes-là, les phénomènes des bulles de filtre aussi, enfin, tu attaques par l'angle que tu veux, mais est-ce qu'on peut généraliser tout cela à tous les réseaux sociaux ?
Je pense que oui, ça doit sûrement exister au vu de l'ampleur que cette thématique prend ces dernières années dans notre société. Il doit y avoir des réseaux sociaux qui sont plus transparents, qui ont des conditions d'utilisation moins strictes. Mais je ne les connais pas malheureusement, mais je pense que ça doit exister. Si quelqu'un parmi vous a une idée...
Est-ce que quelqu'un parmi vous a une idée de quelques médias sociaux alternatifs qui ne collectent pas les données de façon intensive ?
Oui.
Tu as le micro, vas-y, Mehdi.
Il y a Mattermost, par exemple.
Mattermost, Mattermost, c'est un logiciel libre de discussion, est-ce qu'on va dire que c'est un média social ? C'est un logiciel qui s'applique à de la discussion, peut-être dans des groupes plus refermés par rapport à un média social, mais vous avez peut-être entendu parler en cours de Mastodon, des médias sociaux, du fait divers. Et je vois vos sourires, en effet, ça vous rappelle quelque chose. Alors, écoute, on a d'autres questions, mais tu sais quoi, on va partager, Ilias. Hein, donc, je vais en laisser quelques-unes pour la suite. Et puis, on va passer la main, en effet, à Iliane, si tu veux bien continuer donc, sur ta partie sur la régulation des contenus sur les médias sociaux.
Donc, maintenant qu'Ilias a dépeint les pratiques qui ont émergé pour s'informer sur les médias sociaux, je vais donc continuer avec la régulation de ces contenus sur ces médias sociaux. Donc en permettant à tous de publier des contenus et de les partager avec d'autres utilisateurs, les réseaux sociaux ont révolutionné les modes de communication en offrant un support d'expression directe. Néanmoins, les possibilités offertes par les services de réseaux sociaux suscitent des abus inacceptables auxquels les acteurs, tels que Facebook, YouTube, Twitter, n'apportent pas de réponse satisfaisante. Donc un arbitrage de la régulation des contenus est donc nécessaire. Pour arbitrer la régulation des contenus, il est souhaitable d'adopter une politique du numérique efficace pour lutter contre les auteurs des abus et une logique de responsabilisation des réseaux sociaux qui doit s'inscrire dans un cadre européen. En France, les décideurs politiques ont impulsé des lois dans le but de réguler les réseaux sociaux, mais en 2000, avec le Web 2.0, la mise en ligne de contenu a été accompagnée d'une démocratisation de la prise de parole en ligne. Par ailleurs, en 2004, les tribunaux ont exigé le blocage de sites par les fournisseurs d'accès à Internet avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Mais avec l'arrivée des fake news et des discours de haine, de nouvelles logiques de régulation des contenus sont apparues. C'est en 2020 qu'un législateur a tenté de responsabiliser les acteurs avec une loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, qui permet d'exiger sous 48 heures le retrait d'une fausse information en ligne, et une loi relative à la lutte contre les discours de haine, imposant aux plateformes de retirer sous 24 heures tout contenu manifestement illicite, qui prévoit des sanctions financières. Je vais maintenant donc vous faire écouter un court extrait d'une vidéo YouTube intitulée « Modération et donc sur Internet et censure sur Internet ». On retrouve Romain Badoire, chercheur français en sciences de l'information et de la communication, qui s'intéresse notamment aux questions de régulation sur Internet et qui va renforcer cette idée de responsabilisation des plateformes.
On voit que ces dernières années, un peu partout dans le monde occidental, il y a un peu un retour des États pour chercher à réguler les réseaux sociaux, pour chercher à réguler le web, notamment face aux enjeux de désinformation, ce qu'on a appelé les fake news, ou aux enjeux de discours de haine, de cyberharcèlement, avec cette même idée qu'il faut demander plus aux plateformes, il faut demander plus aux grandes plateformes qui possèdent ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Google avec YouTube, etc. Et ces nouvelles lois, elles ont aussi été très controversées. Elles ont été très controversées pour les risques qu'elles faisaient peser sur la liberté d'expression sur Internet. Avec cette idée que peut-être, certainement, faut-il demander plus aux plateformes, mais en même temps, à trop faire pression sur elles, est-ce qu'on ne va pas les inciter à surcensurer la parole des internautes, alors que, justement, les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire, mais aussi pour le meilleur, sont des espaces de liberté d'expression.
Donc, comme nous l'avons entendu dans l'extrait audio, les pouvoirs de censure sur Internet étant concentrés dans les mains d'un petit nombre d'acteurs privés, les pouvoirs publics appellent donc à la responsabilisation des plateformes. Facebook, Twitter et YouTube ont mis à disposition des outils d'autorégulation, comme par exemple le signalement de posts avec un contenu inapproprié. Néanmoins, les pratiques de modération des plateformes se déroulent dans la plus grande opacité et les critères qui président au retrait d'un contenu ne sont pas rendus publics. À ces pratiques s'ajoutent les possibilités de personnalisation des espaces de débat pour lesquels les algorithmes des plateformes filtrent les informations en fonction des usages passés des internautes, afin de leur fournir des contenus en accord avec leurs préférences culturelles ou idéologiques. Ces bulles informationnelles ont pour conséquence de produire des espaces de discussion ajustés à l'échelle des individus et idéologiquement homogènes. Un accord a donc été trouvé entre les institutions européennes, avec le Digital Services Act, qui impose aux GAFA de mieux éradiquer les contenus illicites et dangereux en ligne. Il comprend deux règlements, un premier visant à clarifier les responsabilités, notamment en protégeant les utilisateurs des produits, contenus ou services illégaux, en protégeant leurs droits fondamentaux en ligne, en assurant une surveillance réglementaire des plateformes en ligne. Un second visant à doter les États membres d'un instrument de régulation exigeante des superplateformes, en imposant une transparence accrue sur leurs données et algorithmes, une obligation de moyens aux plateformes pour la notification et le traitement des contenus signalés, mais aussi le blocage des sites dits miroirs, la levée de l'anonymat et la création d'un délit de mise en danger par la publication de données personnelles sur Internet. L'enjeu est aujourd'hui de garantir aux citoyens des formes de contrôle démocratique, des procédures de modération, en adoptant une politique du numérique avec des textes de loi et des accords européens, en responsabilisant les plateformes qui devront évaluer les risques liés à l'utilisation de leurs services et mettre en place les moyens appropriés pour retirer des contenus problématiques.
Merci beaucoup, Iliane, pour ta partie, pour ta présentation. Donc, tu nous as parlé précisément donc, du Digital Services Act et tu as cité une des mesures prévues dans ce texte de loi-là, qui serait la levée de l'anonymat. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses que la levée de l'anonymat, c'est en effet une mesure démocratique au service des citoyens, justement? Si l'on part du principe que l'on est vraiment anonyme sur Internet, après je te laisse développer si tu veux partir dans ce sens. Mais voilà, est-ce que tu veux développer sur cette mention de la levée de l'anonymat?
Ça dépend de quel côté. Donc, en fait, il y a un énorme conflit d'intérêts. Donc, par exemple, je vais prendre donc les politiques qui sont, par exemple avec la loi Avia, qui avait pour but de lever l'anonymat sur Internet. Mais, donc, comme j'ai dit auparavant, ça dépend donc, de quel camp on est. Par exemple, si on est une personnalité publique, notre anonymat n'existe d'ores et déjà plus. Donc oui, forcément, la levée de l'anonymat pour ces personnes-là ne va pas changer énormément de choses. Mais c'est vrai que pour tout simplement garder sa vie privée ou pouvoir faire des critiques constructives, bien sûr, sur tels médias sociaux, la levée de l'anonymat, en tout cas l'anonymat, est à mon avis primordial sur chaque média social.
Merci Liane, d'accord. Alors tu vois, je vais te relier une question de Quentin. qui part du coup sur la modération. Cette fois-ci, tu as parlé de modération, en effet, et tu as parlé de beaucoup de modération fondée sur des algorithmes qui ne sont pas transparents sur justement les plateformes dont on parlait. Et Quentin, on se demande s'il n'y a pas d'autres moyens de modération que les algorithmes dont on ne connaît pas exactement le code, les choix techniques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de modération
Par rapport aux médias sociaux Alors, il faut bien comprendre que donc c'est des entreprises. Donc, forcément, je pense qu'il y a un côté aussi financier, dans le sens où ils modèrent les contenus qu'à partir du moment où, par exemple, financièrement, il faut bien comprendre que les entreprises, s'ils disposent de plaintes ou de petites plaintes, ça ne va pas forcément les dédommager. Des lois européennes qui peuvent complètement bouleverser leur capital, oui, là, effectivement, ils vont tout d'un coup implémenter de la modération. Et donc, comme j'ai dit auparavant, c'est toujours un problème de conflit d'intérêts. Ils vont mettre de la modération que quand, effectivement, ça va coûter quelque chose au côté éthique de l'entreprise ou au côté moral.
D'accord, donc le point de vue que tu nous expliques, c'est qu'en effet, il faut contraindre les plateformes par la loi, par la régulation, pour obtenir une modération satisfaisante de ces plateformes. C'est ce que tu nous expliques. D'accord, merci Iliane pour ta réponse. Et puis on va passer maintenant à la partie de Cléo. Cléo, tu vas nous parler de la propagation de fausses informations sur Twitter. À toi la main.
Alors effectivement, maintenant on va se pencher sur la propagation des fausses informations sur Twitter à l'aide d'une étude réalisée donc sur ce réseau social qui s'appelle « La propagation des fausses informations sur les réseaux », étude du service Twitter. Cette étude a été réalisée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et a été publiée en novembre 2020. Cette étude permet de mettre en avant les caractéristiques des comptes fiables et non fiables ainsi que leur influence, puis les moyens de lutte existants. À titre d'information, le décodex du Monde a été utilisé afin de différencier les comptes fiables de ceux qui ne le sont pas. Donc dans cette étude, différentes grandes remarques ressortent. Premier point positif, les comptes non fiables possèdent en général moins d'abonnés que les comptes de confiance. De plus, les utilisateurs suivant les comptes considérés comme non fiables suivent la plupart du temps une majorité de comptes sûrs. Cela pourrait nous rassurer sur le fait qu'un utilisateur confronté à de fausses informations a tout de même principalement accès à des faits vrais. Mais il existe tout de même des utilisateurs ne suivant que des comptes partageant des fausses informations, et cela donne alors naissance à ce que l'on appelle un phénomène de chambre d'écho. Ensuite, un point négatif important est à noter. Bien que ces comptes non fiables soient moins suivis, leurs tweets connaissent une viralité plus importante puisqu'ils possèdent un nombre de retweets supérieur à celui des tweets fiables. On en déduit alors que les fausses informations sur ce réseau seraient aussi visibles que les vraies. Les auteurs en ont conclu que plus un compte a d'abonnés, moins il sera partagé. Dit comme cela, ça ne semble pas évident, mais cela peut s'expliquer par le fait que plus il y a d'abonnés, plus la communauté sera variée et donc la proportion de personnes impliquées dans les thématiques partagées diminue. Et on peut donc maintenant se demander, mais comment agissent les comptes non fiables pour susciter autant l'attention des utilisateurs ? Donc tout d'abord, ils évoquent des sujets d'actualité clivants, suscitant l'intérêt de tous, comme la politique, la religion, l'immigration, la santé ou encore le terrorisme. Et afin d'attirer l'œil, ces informations sont souvent suivies d'un contenu supplémentaire, comme une vidéo ou une photo. Or, sur ce réseau, il existe des comptes vérificateurs d'informations permettant de lutter contre la diffusion des fausses informations. On les appelle les fact-checkers. Ces comptes totalement fiables sont tenus par des journalistes spécialisés dans le fact-checking. Eux n'évoquent principalement que des sujets liés à leur métier et dont ils ont connaissance, comme l'actualité des médias ou des contenus qui relèvent de l'éducation aux médias et à l'information. Ces fact-checkers ont également pour but de neutraliser les fausses informations en présentant la vérité. Ce travail est relativement compliqué puisque les fausses informations génèrent une grande visibilité en très peu de temps. Donc les fact-checkers doivent y répondre au plus vite, du moins avant la fin de la discussion sur ce sujet, puisque dans le cas inverse, la vérification ne pourra jamais paraître majoritaire. Et donc comme les auteurs de l'étude le disent, les vraies informations ne chassent donc pas les fausses. On va pouvoir maintenant écouter un extrait du podcast Tweeter, Snapper, Scroller, quand les jeunes s'informent, par Bénédicte Robin, publié sur Radio France en mars 2021, et en l'occurrence un extrait de Cyrielle Mégias, journaliste au service Snapchat et TikTok du journal Le Monde, évoquant les moyens des journalistes actuels pour informer les jeunes et leur donner envie de s'instruire sur leurs comptes fiables, et donc permettant également de lutter contre les comptes non fiables.
Alors, ma mission chaque jour, c'est de présenter l'information à un public jeune, à un public qui ne vient pas forcément sur ces plateformes pour s'informer. Et moi, ma mission, c'est de capter son attention et de l'informer en lui présentant les informations du jour de la façon la plus accessible et la plus ludique possible, avec évidemment beaucoup d'images, et ça passe aussi par le texte et la façon dont on va raconter les informations. On essaie d'être le plus dynamique possible, ça va passer aussi beaucoup par donc le rythme et les images. Sur TikTok, justement, on utilise pas mal l'incarnation, parce que sur ce type de réseau, sur Instagram même, les gens sont habitués à ce qu'on leur parle directement, à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'adresse à eux et qui les regarde, tout simplement. Donc on va essayer d'attraper leur attention par ça, ou même simplement, parfois simplement d'amener un sujet en disant « Vous avez entendu parler de ce sujet, vous vous êtes dit que ça avait l'air compliqué, en fait, venez avec moi, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre en une minute. » Simplement cette promesse-là, ça permet de les faire venir avec nous, et si on arrive à tenir ce pari une fois, après on peut gagner leur confiance, et ils vont se dire « Ah oui, c'est vrai que cette crise-là, dans tel pays, je n'ai pas très bien compris, mais si ça se trouve, je vais aller sur le Snapchat ou le TikTok du Monde, et en une minute, je vais comprendre. »
Voilà, donc on peut voir que, pas que sur le réseau Twitter, des journalistes mettent en place des moyens afin d'attirer les jeunes pour qu'ils soient plus attirés donc, sur les comptes fiables et moins vers ces comptes dits non fiables qui exposent des fausses informations. Je suis donc maintenant tout ouïe si des questions ont été posées.
Absolument Cléo, absolument. Merci pour ta partie. Alors écoute, il y a une question Natalia que j'aime bien qui se dit, c'est peut-être une question simple, mais comment est-ce qu'on fact-check un fact-checker ?
Alors ça c'est compliqué. Alors je pense que justement le but du fact-checker c'est de montrer justement que ce qu'il dit est vrai en sourçant tout ce qu'il va dire. Donc c'est pour ça aussi que ce travail est compliqué. Leur but c'est de rapidement montrer qu'une information est fausse ou non. Et pour cela ils vont devoir s'informer, sourcer tout ce qu'ils disent. Et donc je pense que directement à partir du moment où les sources sont données, où on peut aller rechercher et vérifier cette information parce que les fact-checkers tweetent, on peut plus facilement être sûr de ce qui est énoncé.
D'accord, entendu, c'est une bonne méthode. Et donc tu nous disais qu'on pouvait utiliser le décodex du Monde. Je ne sais pas si tu souhaites juste en dire quelques mots pour nous expliquer comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser, cet outil-là.
Alors c'est un outil qui va en fait, je me suis principalement renseignée donc, sur le fait des comptes sur le réseau social Twitter, qui va en fait catégoriser les comptes. Donc dans quatre comptes, enfin il y a quatre catégories différentes en fonction des comptes qui sont fiables, qui sont dits donc de catégorie 4 si je ne me trompe pas, mais également ceux qui ne le sont pas, également les comptes humoristiques. Donc voilà, il catégorise ces comptes afin de déterminer à quoi on peut s'attendre sur ces comptes.
Ok, entendu, c'est très clair. Merci Cléo. Alors, écoute, on va passer la parole maintenant à Swail. Swail, tu vas nous parler maintenant de désinformation sur Facebook. C'est parti.
Alors oui, bonjour à tous. Donc il faut différencier deux types de propagation des fake news sur les réseaux sociaux. On retrouve déjà la mésinformation, c'est-à-dire le fait de répandre des fausses informations, mais d'une manière non intentionnelle. C'est-à-dire que ça va être à cause d'une précipitation ou une mauvaise communication d'une information qui à la base va être vraie, mais qui va devenir fausse. Et on retrouve aussi la désinformation. La désinformation, quant à elle, c'est le relais d'une fausse information d'une manière totalement intentionnelle. Et on va partager cette information erronée afin d'influencer l'opinion publique, par exemple, ou bien induire en erreur certaines personnes de manière totalement intentionnelle. Donc la propagation des fake news, comme l'a dit comme on vient de dire, elle peut se faire sur Twitter, par exemple, ou sur d'autres réseaux, principalement Facebook. Et elle est d'autant plus amplifiée sur un média social tel que Facebook, parce que Facebook, c'est un réseau qui va permettre l'accès à un pluralisme d'informations en même temps. On va avoir plusieurs sources variées, grâce au partage de liens externes des utilisateurs, grâce à la publication de vidéos, d'images ou de posts personnels. Et en plus de ça, à cause des algorithmes de machine learning, on peut tomber très très vite dans une fosse de fake news, c'est-à-dire qu'on aura des recommandations de publications de groupes qu'on va de plus en plus suivre, qui vont de plus en plus être recommandés et qui peuvent être très 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 non objectives, très subjectives et qui peuvent relayer de fausses informations dans un but de nous dissuader ou de faire de la propagande. Et donc pendant les présidentielles de 2017, il y a plusieurs partis qui ont utilisé ce réseau social afin de faire leur campagne électorale. Et on a vu naître une grande vague de désinformation et de fake news de la part des partis politiques. Donc maintenant, je vais vous laisser avec un court extrait d'une interview de David Chavalarias. C'est un chercheur du Centre national de recherche scientifique. Lors d'une étude des fake news pendant les élections de 2017 avec d'autres chercheurs. Cette interview date du 20 septembre 2018 et on peut la retrouver sur la chaîne YouTube du média d'information Brut.
Ce que l'on a observé, c'est que donc les fake news se concentraient de manière très très forte dans deux communautés. La communauté Fillon, qui était à l'origine de plus de 50% des fake news référencées par les décodeurs, et la communauté Le Pen, autour de Le Pen, qui était responsable de plus de 22%. Les raisons pour lesquelles c'est que ces deux communautés sont assez difficiles à déterminer, et bon, ça dépasse vraiment largement le cas de l'étude, mais donc pour moi il peut y avoir vraiment en gros au moins trois hypothèses. Soit c'est un outil assumé de campagne politique, donc là c'est vraiment de la désinformation, soit pour certaines c'est une marque d'appartenance. Encore une fois, si on dit Mélenchon est une Rolex, tout le monde sait que, bon, a priori, c'est faux, mais ça peut être une forme ironique. Soit ce sont c'est un outil numérique utilisé pour influencer une communauté donnée, donc ça peut ne rien avoir à voir avec la communauté Le Pen ou Fillon, mais être opéré par des gens qui essayent d'amener ces deux communautés dans certaines directions, les polariser, les amener à être plus violentes ou virulentes, etc.
Donc voilà, comme l'a montré cette vidéo, la désinformation et la propagande de fake news a été très présente durant cette campagne électorale, même si elle a été, on va dire, dominée, entre guillemets, par certains partis. Et sur Facebook, la désinformation se fait principalement par le partage de liens de sources externes et non pas par le biais de posts ou d'images. Et donc, ce qui va être à questionner, c'est la fiabilité de ces sources et de ces liens externes qui viennent principalement de blogs personnels ou de pages personnelles. Donc le FN, le Front National, se positionne en tête du classement des communautés politiques avec le contenu, on va dire, le moins fiable selon le décodex du Monde. Donc la moitié de leurs sources viennent de sources personnelles jugées non fiables ou non objectives ou douteuses. Et cela leur a permis de porter préjudice à l'image d'autres candidats, tels qu'Emmanuel Macron par exemple, qui lui aussi a eu recours à relier ses liens externes, mais cette fois-ci pour les critiquer et non pas pour les promouvoir. Et donc sur Facebook, cette désinformation est beaucoup plus amplifiée par un phénomène de cloisonnement ou de bulle informationnelle, comme l'a dit Elias tout à l'heure. Plus les gens sont impliqués dans la politique sur les réseaux, plus le contenu qui leur apparaît est polarisé, que ce soit vers la gauche ou la droite du spectre politique. Donc par exemple, une personne suivant des idéologies de droite ou de gauche aura plus de contenu des pages et des groupes de cette communauté politique. Et donc cet effet d'enfermement expose l'utilisateur à de plus en plus de contenu non fiable et qui va être susceptible de les induire en erreur. Et donc enfin, afin de lutter contre ça, de nouveaux algorithmes apparaissent sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram qui permettent de détecter si les informations sont douteuses ou non et de donner une alerte pour dire que voilà, l'information n'est peut-être pas fiable et qu'il ne faut peut-être pas y croire. Et il y a aussi le signalement des publications par d'autres utilisateurs qui permet de bannir les utilisateurs qui relaient ces informations ou de bannir ces posts. Il y a aussi l'invisibilisation, comme Mehdi va en parler juste après moi et à qui je vais laisser la parole.
Merci beaucoup Sohail, merci pour ta partie. Alors tu vois, je vais reprendre une question de Quentin qui a été posée un petit peu plus tôt et qui recroise bien ce que tu nous as expliqué à propos de la désinformation sur Facebook. Quentin se demandait si le seul objectif de la collecte des données est de nous manipuler. Donc après, à des fins politiques, comme tu as insisté sur le côté politique de tout ça. Est-ce que tu souhaites répondre à cette question?
Oui, bien sûr. Ben, on va dire que l'objectif, il y a plusieurs objectifs, mais ce n'est pas forcément pour nous manipuler d'une manière, on va dire, malsaine. Ça peut aussi être pour notre sécurité, par exemple. On peut suivre nos informations, etc. Par exemple, comme pour suivre les activités terroristes, suivre les fusillades, par exemple, aux États-Unis. Il y a des écoles ou des États qui suivent les adolescents pour savoir ce qu'ils likent ou ce qu'ils retweetent ou ce qu'ils partagent, pour voir leurs intentions un peu. Et il y a aussi une surveillance, on va dire, qui est publicitaire. On peut suivre notre activité sur le web, notamment pour avoir un contenu plus personnalisé qu'on peut nous partager sur ce qui peut nous intéresser et qu'on soit pas ennuyé, on va dire, sur le web.
Ok, merci Souhaïl. Alors, je te relaie une seconde question, ouais. Dana, qui est... Alors, c'est une question pas facile, hein, tu vois, je ne saurais pas y répondre moi-même. Tu vas me dire si tu en sais davantage. Alors, Anna se demande si les comptes qui relaient des fausses informations sont homogènes dans le monde, au sens où est-ce qu'il y aurait des zones, des pays avec plus, qui utilisent plus de désinformation que d'autres. Est-ce que tu as en tête quelques exemples, quelques bons ou mauvais élèves par rapport à cela?
J'ai pas vraiment d'exemple concret par rapport à ça, mais je pense que dans les pays, on va dire, un peu moins démocratiques, que ça va être moins homogène, que ça va beaucoup être utilisé contre nous, et que la désinformation va beaucoup plus se faire pour éliminer, on va dire, les concurrents ou les adversaires politiques, je pense. Mais je n'ai pas forcément d'exemple très très précis en tête.
D'accord, soit, merci. Je crois que Mehdi, tu vas peut-être parler un petit peu. Je crois que tu as juste un exemple à un moment donné, mais plus sur l'invisibilisation des contenus. Mais je ne spoil rien. Tu présentes ta partie, évidemment, comme tu le souhaites, sur l'invisibilisation des contenus sur Twitter. À toi la main.
Alors, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'invisibilisation des contenus sur Twitter ainsi que le Shadowban. Alors, le Shadowban, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une vraie définition, en fait, c'est un bannissement furtif d'un ou plusieurs utilisateurs d'une même plateforme sur un réseau social. Ce bannissement, en fait, par quoi est-ce qu'il se caractérise ? Il se caractérise par le fait que la personne qui en est victime n'en a pas conscience. Dans le sens, elle n'en est pas informée, elle ne reçoit pas d'email ou de notification pour lui dire qu'elle a été sujette à ce bannissement. Et ce bannissement, il se définit également par le fait que cette personne-là voit toutes ses contributions sur la plateforme sociale devenir invisible. C'est-à-dire que chaque publication, chaque commentaire, chaque interaction qu'elle aura avec chaque personne ne sera pas relayée à la personne à laquelle elle est destinée, ou bien au grand public, si par exemple quelqu'un veut faire une publication sur un forum, par exemple. Et ce qui rend cette arme particulièrement efficace, c'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de pousser la personne qui est sujette à ce bannissement à la lassitude. Au bout d'un moment, personne n'aime continuer à parler tout seul. Et le but est de pousser gentiment cette personne-là en dehors de la plateforme, en l'empêchant toute interaction et l'empêchant de voir ses contenus se propager. Donc maintenant, automatiquement, on peut se demander comment est-ce que ce shadowban est mis en place sur les différentes plateformes et qu'est-ce qu'il implique, qu'est-ce qu'il peut y avoir peut-être des problématiques, est-ce que tout est blanc, tout est noir, on ne sait pas encore. Alors, normalement, le shadowban, c'est une très bonne idée sur le papier. Pourquoi ? Parce que ça permet de réfréner les mauvais contenus et les contenus qui sont possiblement dits problématiques, par exemple les contenus illégaux et ainsi de suite. Et c'est une bonne chose parce que les personnes qui sont « éconduites » entre guillemets du réseau social ne peuvent pas se plaindre, étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas mesurable ni quantifiable à part en interne au niveau de la modération de la plateforme. C'est-à-dire que personne ne peut venir se plaindre, te dire « oui, j'ai été shadowban, oui, plus personne ne veut me parler, etc. » Alors qu'on pourrait juste leur répondre « oui, tout simplement, ton contenu n'intéresse personne. » Du coup, tu n'as plus rien à faire, tu peux trouver un autre endroit. Donc au final, c'est une bonne chose parce que ça permet aux utilisateurs qui sont victimes de ça, de ne pas se plaindre et de ne pas trouver de contre-attaque vis-à-vis de cette censure-là. En réalité, il faut savoir que le concept, il est plutôt controversé parce qu'il y a énormément de dérives et de censures qui pouvaient être considérées comme arbitraires. Par exemple, je vais vous montrer un extrait pour illustrer mes propos, qui est un extrait sur France TV Info d'un article qui a été publié le 14 janvier 2021. Donc en fait, pour la mise en contexte, c'est Cam, c'est un jeune TikToker américain qui a fait le buzz avec des vidéos courtes, humoristiques, durant le confinement. Il faisait des millions de vues, il a vu son audience drastiquement baisser en 2020 après avoir commencé à poster des vidéos sur le thème des manifestations Black Lives Matter, ainsi que les différentes polémiques du moment. Du coup voilà, je vous laisse avec l'extrait.
Selon Cam, TikTok les aurait jugés trop politiques. Il dit avoir été victime de ce que l'on appelle le shadowban. Ça veut dire que TikTok n'aurait pas supprimé ses vidéos, mais aurait tout fait pour qu'on ne tombe pas dessus. L'application a fait valoir un bug technique, mais selon le modérateur, il s'agirait d'une pratique courante.
Dans notre équipe, nous n'effacions pas directement les contenus. Nous les masquions. De cette manière, l'utilisateur ne comprend pas ce qu'il se passe. Il se demande juste, mais qu'est-ce qui se passe avec mes vidéos? Pourquoi plus personne ne les voit?
Quel genre de contenu deviez-vous cacher?
Beaucoup de contenu en réalité. Tout ce qui avait à voir avec la politique. Au début, on devait même masquer les vidéos qui montraient des chefs d'État. On bloquait aussi les hashtags des vidéos des manifestations de Hong Kong. Alors que sur les autres réseaux sociaux, à cette époque, on pouvait en parler.
Alors voilà, comme vous avez pu l'écouter dans l'extrait, voilà, c'est un modérateur de la plateforme TikTok qui expliquait que voilà, peut y avoir du shadowban pour des raisons politiques, par exemple. Donc voilà, donc au final, on se rend compte que le shadowban, par le fait que c'est une bonne idée, par le fait que la personne ne peut pas s'en plaindre et ne peut pas y échapper, ça permet de censurer, entre guillemets, ce que la plateforme souhaite censurer sans pour autant qu'il y ait un réel fondement, c'est-à-dire sans pour autant que le contenu soit plus problématique que ça, qu'il embête d'autres utilisateurs. Pourquoi? Peut-être parce que la plateforme est soumise à forcément un agenda politique, étant donné que ce sont des plateformes privées, ce ne sont pas des plateformes libres, donc à leur tête des PDG qui ont pour objectif une certaine rentabilité. Et le but d'une plateforme, c'est d'attirer un maximum de personnes et de monétiser cette audience en, par exemple, en reliant des publicités. Donc automatiquement, si jamais la plateforme se retrouve à relier des informations qui peuvent être jugées comme problématiques ou des avis politiques un peu borderline, entre guillemets, les utilisateurs peuvent être amenés à quitter la plateforme, ce qui n'est pas ce que les plateformes et les réseaux sociaux veulent. Donc voilà, il faut savoir que les États aussi peuvent utiliser ce genre de pratique, avec par exemple avec la Chine. Lorsque quelqu'un donnera un avis dissident sur le régime chinois, il faut savoir qu'il y a des millions de commentateurs qui sont employés à plein temps en Chine afin de répandre une bonne image vis-à-vis du régime. C'est-à-dire qu'en fait, ce commentaire négatif / dissident sera noyé sous un flot de commentaires positifs chantant les louanges du régime. Ce qui veut dire qu'au final, il y a une contrefaçon d'un mouvement d'opinion pour faire croire que tout le monde est favorable à la politique chinoise, alors que ce n'est pas forcément le cas, le tout afin de noyer. Et lorsque, par exemple, on émet une certaine critique et qu'on se retrouve noyé face à des avis qui sont complètement opposés aux nôtres, bah, automatiquement, on a tout de suite moins de visibilité et on a tout de suite envie d'abandonner. Donc voilà, le but, en fait, c'est plus quelque chose de psychologique pour pousser les personnes qui publient des contenus problématiques à tout simplement arrêter. Donc maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, les réseaux sociaux ne sont au final pas si neutres que ça. Malgré le fait qu'ils avancent chacun engagé des acteurs extérieurs quant à la censure et quant au shadowban, sauf que ces acteurs extérieurs, entre guillemets, obéissent toujours selon les directives de la plateforme. Du coup, qu'ils travaillent directement dans leurs locaux ou ailleurs, ils restent quand même soumis à leur agenda politique et à leurs autres contraintes. Il faut savoir que le shadowban et les censures peuvent être utilisées directement par les utilisateurs eux-mêmes. Par exemple, c'est le cas sur la plateforme Twitter, là, on peut masquer certains commentaires, on peut bloquer des personnes, on peut empêcher des gens d'interagir, ce qui permet en soi de réguler sa propre communauté, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que lorsqu'on a une petite communauté sur Internet, rien ne nous oblige, on n'a pas d'obligation vis-à-vis de tous les utilisateurs. Et voilà, comme j'ai dit plus tôt, les plateformes restent avant tout privées. Voilà, leur but est de générer des revenus et il faut faire en sorte de rester le plus neutre possible, entre guillemets, de ne pas avoir d'avis problématique afin d'attirer un maximum de personnes. Donc maintenant, je dirais qu'avec le shadowban, l'enjeu est dorénavant de savoir dans quelle mesure nous devons confier les clés de cet espace public qui est Internet à des pouvoirs privés qui échappent encore largement à toute forme de contrôle démocratique. Donc voilà, je pense que ça rebondit sur ce qu'ont dit mes camarades par rapport aux élections et aux différents avis politiques qui peuvent être présents sur les plateformes et les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et voilà, merci à vous.
Merci Mehdi. Eh bien, Anna n'a pas hésité. Anna a une première question, une question pratique technique. Elle se demande s'il y a un moyen de différencier un shadow ban d'une baisse d'audience qui se fait par elle-même. Est-ce qu'il y a moyen de savoir si l'on est victime de l'un ou simplement qu'on a une baisse d'audience?
Alors, il faut savoir que oui, il y a des moyens techniques de le vérifier. Alors, comme je l'expliquais, le shadow ban, en fait, c'est le fait de rendre invisibles les contenus et les comptes des personnes. Du coup, une pratique très simple pour voir si l'on est shadow ban, c'est de créer un nouveau compte sur cette plateforme et de faire une recherche sur ses propres contenus. Si jamais ces contenus n'apparaissent pas, on a été shadowban. Et il y a des bots sur, par exemple, Reddit, Twitter et d'autres réseaux sociaux à qui on peut faire des demandes, c'est-à-dire on fait une petite commande avec un slash, quelque chose comme ça, et le bot lui-même va exécuter une recherche de notre utilisateur, et il va renvoyer une réponse. Si jamais il trouve rien, c'est que le shadowban est effectué. S'il trouve quelque chose, c'est que le shadowban n'a pas été effectué. Donc voilà, y a un moyen technique d'en avoir la preuve, mais cette preuve-là ne sera jamais recevable lorsqu'on voudra se plaindre chez la plateforme, par exemple, de dire « Attendez, mais quand je cherche, etc., je ne trouve pas », ils vont dire « Oui, il y a un problème technique, on va régler ça, à la fin, ils peuvent ne rien régler ». Ils ne sont pas obligés, donc voilà. C'est comment est-ce qu'on fait pour diversifier une baisse d'audience d'un shadowban.
Ok, Mehdi, merci beaucoup. Bon, alors écoutez, à ce stade de la compétition entre la collecte des données, la désinformation, le shadowban sur les réseaux sociaux, vous traitiez du sujet du fait de s'informer sur les médias sociaux. Une toute dernière question qui s'adresse à vous toutes et tous. Malgré tout cela, est-ce que vous continuez à vous informer sur les médias sociaux? Est-ce que vous avez juste des petites techniques d'autodéfense numérique à ce sujet-là pour continuer de vous informer sur les médias sociaux ou vous avez abandonné? Comment ça se passe pour vous?
Bah, moi, je pense que à partir du moment où on se rend sur les réseaux sociaux, on n'a entre guillemets pas le choix d'être informé, dans le sens où sur tous les réseaux, on n'a pas spécialement accès que à ce que l'on souhaite. Comme par exemple sur Twitter, on a accès pas spécialement aux tweets de comptes auxquels on est abonné. Donc je pense qu'à partir du moment où on se rend sur un réseau, on sera obligatoirement informé. Maintenant, je pense que c'est un travail à réaliser sur nous-mêmes, de s'assurer avant de partager justement un tweet, s'assurer qu'il est vrai, de chercher les sources, de chercher un article qui va également évoquer ce fait. Je pense que c'est plus un travail à faire sur nous-mêmes. Oui, je continue à m'informer, puisqu'à partir du moment où je vais sur un réseau social, je vais avoir accès à certaines informations. Mais il faut, je pense qu'il faut surtout savoir différencier ce qui est vrai, ce qui est faux, et choisir également les comptes qu'on décide donc, de suivre ou non.
Alors moi, je pense que c'est une question très intéressante parce que d'un autre côté, selon moi, l'information depuis le début de l'histoire, elle a toujours été cachée par les gens puissants. Si par exemple quelque chose n'a pas envie d'être ébruité, eh bien il y allait avoir des choses qui vont être faites pour que ces informations-là ne sortent pas. Mais je dirais qu'à l'ancienne, avant, c'était très possible de censurer l'information de façon efficace. Maintenant, je trouve que malgré le fait que voilà, il y a quand même une information qui peut parfois être sujette à de la censure, qui peut être empêchée d'être publiée, etc. Je trouve que les réseaux sociaux permettent tout de même à certaines personnes, par exemple, je pense surtout aux reporters dans les pays à risque, par exemple, ou dans les pays entre guillemets avec une certaine dictature, des pays pas très démocratiques, par exemple. Sans les réseaux sociaux, sans Internet, sans un réseau, sans une connexion Internet, ils ne pourraient pas, par exemple, exposer leurs trouvailles au reste du monde. Donc voilà, malgré le fait qu'en effet, les informations, je ne considère pas les informations sur Internet très fiables, malheureusement c'est comme ça et on ne peut pas y faire grand-chose, mais il faut reconnaître que quand même, ça reste quand même un vecteur d'information qui utilisé par les reporters dans les pays, comme je disais, à risque, ou par exemple, ou d'autres personnes qui ont des informations sensibles qui souhaitent faire fuiter. Donc voilà, je pense qu'il y a du bon et du mauvais, il faut savoir rester vigilant. Et il faut savoir aussi doser l'importance de l'information que l'on cherche, c'est-à-dire des informations concernant les scandales, par exemple. Là, à ce stade-là, il faut peut-être plus se poser la question sur les sources, qui a publié ça et pourquoi, le comment. Alors que des informations, par exemple, la météo de demain, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes vis-à-vis de ça. Donc voilà, c'était mon avis.
Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Elias, tu souhaitais rajouter quelque chose? Mais vous avez tous bien participé, en effet. Oui. Merci à tous les cinq pour votre présentation. Bravo. Vous pouvez réécouter, là je m'adresse à tout le monde, vous pouvez réécouter les interventions des étudiants de WE1 en podcast sur graphite.net et puis ensuite sur l'instance Peertube à Peri.tube, chaîne Upload. Ce sera reporté là-dessus par Stéphane qui m'a bien aidé à la technique déjà aujourd'hui. Si vous êtes curieux ou curieuse de ce que l'on apprend en WE1, venez faire un tour sur librecours.net. Et puis mercredi prochain, on aura deux sessions de deux groupes d'étudiants qui viendront présenter leurs travaux au micro de Graphite. Voilà, on parlera de design éthique et de pratiques de modération sur les médias sociaux, sur le créneau actuel. Merci à tous les cinq encore une fois. Merci à Graphite pour l'accueil de ce format d'émission. Et bonne fin de journée à toutes et à tous.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC.
avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane.